Depuis hier matin, nous entendons parler d'Henri Raynal comme d'un poète en prose, d'un poète métaphysicien, mais guère d'un romancier. Donc c'est à cette question du roman, articulée à la question de l'usage de la fiction, que je voudrais m'attaquer pour poser un problème de poétique des genres qui me semble illustré par ce roman « L'accord ». Ou cet essai romanesque, peut-être ce serait la meilleure définition possible de cette œuvre. Parce que cette œuvre met le roman à l'épreuve de ce que je vais appeler la sagesse d'Henri Raynal et illustre une opération de pensée que peut mener sans doute dans la littérature et la fiction littéraire, une opération paradoxale de pensée. Ce texte couronne l'ensemble de l'œuvre poétique, essayistique, fictionnelle de Henri Raynal. Il y reprend de son aveu, à peine changé, je le cite, à peine changé pour en faire sa dernière ligne, la phrase sur laquelle s'achevait l'avant-dernier chapitre de L'œil magique, publié en 63, peut-être que l'être entier converge lentement vers une cérémonie. Dans ce roman à vocation synthétique, donc, l'auteur réorchestre les pensées, émotions, méditations que contient toute son œuvre antérieure. On y retrouve les concepts dont nous avons entendu parler depuis hier, ceux de dignité, de coquetterie, d'apostolat, aussi des néologismes tels que vestiture, apparure ou florescence, sur lesquels donc je ne vais pas m'apesantir. Je soulignerai simplement ces résonances au sens musical du terme, donc cet accord au sens musical du terme, entre les œuvres qui précèdent et ce roman, accord désignant à la fois, me semble, enfin, il y a une polysémie évidemment du mot accord dans le roman, désignant aussi par ailleurs la connivence de l'homme et du monde, et puis précisément même, étant donné la fiction que raconte ce roman, le contrat aussi, entre le personnage narrateur, Thierry, et la demeure dans laquelle il séjourne. Je me consacre donc surtout à la question de la fiction et je voudrais analyser d'abord la forme du récit avant d'envisager la fonction de la fiction pour me demander quelle puissance de séduction et quel pouvoir de conviction le roman peut mettre au service de la cosmophilie. Et quel usage, et m'interroger aussi sur, dans un deuxième temps, sur l'usage que le roman fait du dialogue, et qui est très fréquent dans l'accord, et de la métaphore. Je me demanderai enfin s'il échappe, pour emporter l'accord du lecteur, à l'autorité de la thèse, et quelle relation complexe il peut entretenir avec le type du roman à thèse. Pour commencer donc, la forme du récit. L'histoire est menée par un narrateur homo diégétique, Thierry, héros de l'intrigue, source de la narration, interprète et juge de son aventure, évaluateur de son aventure. Le roman reconstitue son séjour en un lieu appelé la demeure, mais aussi la fondation ou l'abbaye, et le texte que nous lisons résulterait d'un journal tenu par Thierry lors de son séjour, voué à être publié pour faire part, dans une logique absolument rénalienne, au monde de l'expérience qu'il y a traversée. Pourtant, si le texte est bien à la première personne, ce n'est pas une écriture au fil des jours qui se déploie, ce n'est donc pas un journal, mais un récit écrit très spectaculairement a posteriori, au passé simple, dans un style soutenu, voire cérémonieux, en accord sur ce point, avec le lieu et le sujet du livre. Cette reconstitution a posteriori éclate dans l'organisation du roman, composée de 3 parties, divisées chacune en 8 chapitres, qui s'appellent respectivement « Étrave de l'impalpable »,« L'orée de la nuit »,« Partage de Dieu ». Elle narre, ces parties, successivement, l'intronisation de Thierry, l'adoration d'Alexandra, la séduction d'Alicia. L'incipit du roman nous plonge in medias res, s'il se peut dire, d'un entretien amoureux entre Thierry et Juliette, entretien surpris par le lecteur, donc, au cours d'une soirée mondaine. L'effet théâtral de l'entrée en matière favorise l'immersion fictionnelle du lecteur, mais la fiction qui s'esquisse déjà dans nos esprits à cet endroit du texte est une fausse piste, puisque dès la page 3, Thierry raconte le ravissement dont il a été l'objet, soudain une apparition m'arrêta, j'y reviendrai, et que dès le chapitre 2, cette fameuse Juliette était conduite. C'est donc un personnage qui me semble inutile sur le plan dramatique, puisqu'elle sort du récit très vite, mais tout à fait nécessaire sur le plan sémantique par rapport à la question que nous nous sommes déjà posée de la relation qu'entretient dans la sagesse, je vais l'appeler comme ça, de Henri Raynal, le manque et le désir. Parce que précisément, cet entretien amoureux fait apparaître ce ravissement que subit Thierry comme un ravissement qui ne comble pas du tout un manque. Il n'y a nulle insatisfaction à la page 1 du texte, mais qui advient comme un surcroît, comme un excédent, et toujours sous le signe du plus, c'est-à-dire, page 26, sous le signe du sacré. Le mouvement de Thierry est donc suspendu dans le roman, comme celui de Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale, mais au lieu que l'étreigne la curiosité de connaître les habitudes ou les détails de la vie de l'inconnu, il est transporté par l'énigmaticité de sa figure hyperphanique. Je cite « La nuit venait vers moi, la nuit, majuscule. » La deuxième fois, majuscule. À nuit. « Tout près, elle qui est abîme se faisait connaître. Telle la vague qui se forme tout au sommet des épaisseurs indistinctes de l'océan, l'inconnu s'approchait de moi comme l'étrave adorable de l'impalpable. Mieux, sa figure de proue. Le sans borne, deux majuscules, en elle, daignait prendre corps ici. » Dans la première partie, donc, de l'accord, Thierry évoque la fascination de l'inconnu et raconte son intronisation dans la communauté dont la finalité est, c'est explicite à la page 48, d'établir les confluences, d'honorer la conciliation, je cite précisément, entre guillemets, d'élever des ogives de ferveur. Ce qui, bien sûr, renvoie à la louange dont nous avons parlé ce matin. Cette partie privilégie le scénario initiatique, le regard de Thierry s'est converti, tout lui est devenu étrange et fascinant, page 13, rien ne va plus de soi. Le lexique de l'initiation et aussi d'ailleurs de l'institution émaille le tissu du texte, demeure, avec majuscule, dame, avec majuscule, offrant et pris, et par ailleurs, rectrix, vis rectrix, pour les femmes qui régissent cette demeure. Invisible est l'inconnu, entièrement occulté par une étoffe de jais, comme est invisible le chemin qui conduit à la demeure Thierry lorsqu'on l'y emmène. L'invisible le met donc sur la voie d'une autre dimension du réel qui lui sera révélée pourvu que, épris du féminin, condition prérequise pour être admis à séjourner à la demeure, il y fasse ensuite et en outre allégeance. La seconde partie se rapproche d'un récit érotique et André Guetto a magnifiquement lu une page, on a magnifiquement lu une page hier soir. Dans ce monde régi par des femmes, l'admiration d'Irène, vice-rectrix, l'adoration d'Alexandra, responsable de la bibliothèque, se disputent le cœur et le corps de Thierry à un moment. Il n'est pas non plus insensible aux cinq dames, ses prêtresses anonymes et voilées, elles aussi. Leur séduction à toutes et une certaine inconstance du désir de narrateur pourraient relever du libertinage, mais d'un libertinage spiritualisé, sublimé. Ces corps sont conducteurs d'une sensualité mystique, invitent à l'adoration, à l'oraison, à la consomption de l'adorant, beaucoup plus qu'à la consommation de l'amour. L'ascèse sacrificielle, l'extase du désir, dont l'abstention est l'occasion, révèle, dans la chair de Thierry, je vous renvoie à la lecture d'hier soir, le dépassement de soi-même, le sentiment d'insertion dans un monde spiritualisé. Et finalement, après quelques scènes d'oblation, d'apaisement pénitentiel et de dévotion, la possession d'Alexandra sexualise l'extase, nous sommes au chapitre 13. Acmé du chapitre 13, en un certain sens. Or, après avoir cédé contre toutes les règles locales à l'amour de Thierry, Alexandra quitte l'abbaye. Au retournement de situation dramatique, le texte étant donc très construit, comme vous l'aurez remarqué, s'ajoute la révélation du sens du voilement de ces cinq dames. En elle et par elle se manifeste la nuit des origines, le mystère et l'énigme de la vie, objet final mais inaccessible de la quête. Dans la troisième partie, Partage de Dieu, comme le titre l'indique, le roman devient clairement métaphysique. Le rappel du hadith « J'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu, alors j'ai créé les créatures afin d'être connu par elles » oriente le récit vers une méditation religieuse. La réserve de Dieu permet de faire la place au possible, aux combinaisons disponibles, aléatoires, dérivées de la rencontre de règles et de hasards. Dieu, ingénieur et artiste, est à la fois absent et présent, se découvre en un visage ou en un paysage, se rend concret, particulier, s'individualise en une existence exposée à la vicissitude et à la finitude. Est métaphysique aussi le malaise dont souffre Thierry, la tension entre l'adoration de l'une et la séduction des autres, la dispersion de ses élans, l'écartèlement de ses aspirations, qui rappelle la souffrance d'un démembrement de soi dont la narratrice du récit allégorique Dans le secret est l'incarnation et la voix. En effet, cette narratrice se guérit dans le secret, alors qu'elle est enchaînée et entravée, se guérit d'une sorte de dislocation comparable à ce que les stoïciens peut-être appelaient la stultitia. Cette troisième partie propose de penser, sans les connaître évidemment, la merveille et l'énigme, l'articulation de l'absence et de la présence, la conciliation des contraires. La pensée de l'orientale n'en est pas absente, elle est invoquée à travers le conte Bhakti qui est attribué, je vais y revenir, à l'un des, qui est écrit par un des hôtes de la demeure et qui désigne la voie de la ferveur. Le yin et le yang sont explicitement convoqués et se rencontrent dans les peupliers comme dans l'étoffe, aux pages 126 et 132 du roman. L'alliance, enfin, ou l'accord de la gravité et de la gracilité, s'incarne dans la danseuse écuyère Alicia, dernier personnage féminin du roman, dont la posture du corps exprime le désir du ravissement, page 136, et qui suscite en Thierry un ravissement supplémentaire et ultime, qui le sauvera de la dispersion. À la toute fin du roman, ils s'unissent et quittent les lieux pour répandre les valeurs de la fondation, en faire part. Initiatique, érotique, métaphysique sont donc les trois adjectifs qui pourraient sans doute le mieux qualifier la forme narrative de ce roman et aussi qualifier un rapport au monde, un mode d'être qui réclame une attention visionnaire, je cite, le renoncement à l'égoïcité, l'intuition d'un ordre de grandeur qui relève la misère de l'homme, lui rende dignité et majesté par l'appartenance éprouvée au cosmos et par son insertion dans l'univers, ce sont maintenant des affaires connues. Conformément à la pensée du faire part, Thierry raconte son histoire pour en témoigner, la faire partager jusqu'au partage de Dieu précisément. Je voudrais donc maintenant questionner l'usage de la fiction et la paradoxale inscription de ce roman dans notre contemporain, c'est-à-dire questionner la nécessité d'en passer par un personnage fictionnel et d'en passer par des modes donc de l'incarnation, de la voix et par l'écriture dialoguale. D'abord, au lieu d'exposer des idées abstraites, la narration à la première personne favorise l'identification du lecteur au narrateur, on le sait, et la projection dans l'univers fictionnel est accréditée par l'emploi de ce « je » qui propose sur le mode imaginaire une sorte de partage des épreuves du héros. Je l'ai dit, l'incipit immerge violemment le lecteur dans une conversation intime, sans présentation, par une sorte de rapt comparable en son ordre propre au ravissement de la scène inaugurale racontée par Thierry à partir de la page 3. Mais loin de réduire le personnage à un doublon mimétique, on pourrait dire aussi que l'emploi de « je » ajoute un supplément authentique à ce qui se présente comme un roman de l'âme qui correspond au surcroît de présence et d'intensité dont ce « je » fait l'expérience. interpellé par la nuit, l'énigme et la merveille. Il est aussi en charge de l'évaluation du monde qui se présente à lui, largement qualifié. Et on pense effectivement à Gracq, écrivain du consentement quand même, on l'a rappelé ce matin, pour qui le choix de l'adjectif est le signe de l'être comme présence au monde, voué à la contemplation du monde, des arbres et des robes, par exemple. Par le choix de la voix, donc fictivement authentique, et par le choix du point de vue subjectif, impliqué évidemment par la narration à la première personne, Lacor propose de vivre par procuration l'expérience du narrateur, de faire vivre au lecteur un apprentissage vicaire, à la diversité de l'univers, à sa prodigalité, qu'atteste la richesse des adjectifs de la prose rénalienne, dans les descriptions, dans les rêveries, dans les méditations lyriques, et aussi dans les discours. Et c'est précisément sur le discours que je voudrais maintenant m'arrêter, après avoir souligné que, sans doute évidemment, le genre du roman, par sa plasticité même, est le seul genre qui permette cette combinaison de possibles, hein, ce tissage de rêveries, de méditations et de dialogues, de descriptions aussi bien sûr, ce tissage du chant et de la théorie, de l'éloge et de l'idée, qui constitue ce que Henri Reynal appelle une méditation lyrique. J'en viens donc au discours, qui occupe un volume frappant dans le roman et qui accomplit par la mise en voix, ou cherche à accomplir par la mise en voix, les effets de l'incarnation du personnage, cette espèce d'ego expérimental qu'est Thierry. Le récit de Thierry est scandé de plusieurs entretiens, conversations non pas simplement amoureuses mais philosophiques, deux avec Marc, un autre hôte de l'abbaye, sept avec le féminin, dont quatre dialogues avec Irène, un avec Elisabeth, un avec Alexandra et un trilogue entre Elisabeth, Alexandra et Thierry. 11 entretiens au discours direct que donc fictivement nous entendons se tenir et qui permettent par métalepse d'inclure le lecteur en ce « vous » qui circule sur le plan de la diégèse entre les interlocuteurs. Grâce à l'emploi d'interlocuteurs fictifs, il est loisible à Henri Reynal, comme il le dit de Louis-Paul Guigue, de donner un tour plus, je le cite, de donner un tour plus vif et plus pressant à l'exposé de ses conceptions, de ses dessins. Le dialogue remplit ainsi la fonction de fiction que lui reconnaît Kettenburger dans Logique des genres littéraires. Il crée l'effet de présence de la voix et de la vie. Et de fait, comme l'écrit Henri Reynal, les scènes que le récit place devant les yeux du lecteur ont pour effet de changer le mode d'existence des idées. Voici que des personnages et une situation leur fournissent l'occasion de s'incarner, parler, incarner, partie prenante de la scène, les idées alors reçoivent la présence en partage, elles sont d'actualité, et j'en profite pour le remercier nommément et directement de ce commentaire qu'il m'a adressé. Elles sont d'actualité. Outre l'illusion de l'actualité, le roman cherche aussi à produire un effet de vérité et se veut fable philosophique. Aussi juxtapose-t-il au pôle masculin des chapitres d'œuvres de pensée, dont les contributions de Thierry, par exemple le chapitre 6, Majesté, solennité, pourquoi, et le chapitre 20, Portrait de toi. Donc, au pôle masculin des chapitres d'œuvres de pensée répond le pôle littéraire du féminin, représenté par le conte Bacti de Bertrand, ou le poème en prose Orante de Norbert, deux hôtes masculins, vous avez entendu les prénoms, mais qui inscrivent leur féminité onirique dans ces textes. Ces apologues, enchâssés dans le roman, sont philosophiques au sens où ils exemplifient une métamorphose analogue. Le corps devenu étoffe dans Orante, transmatérialisé, accède à l'espace vierge, je cite, à l'espace vierge métaphysique, disponible pour la venue de possibles. Bacti, le conte, qui résonne, me semble-t-il, avec Au pied d'omphale, raconte le passage de l'expiation à l'oblation, la conversion d'une coupable en coupe, d'où louange s'élève. Page 107. Philosophique, ces fables ou ces apologues. Philosophique aussi, les nombreux dialogues qui scandent les étapes de la fiction et qui sont, par excellence, la forme et le processus de la pensée en mouvement et en progrès, forme et processus moderne. Dans un même entretien électronique, donc, que nous avons mené tous les deux, Henri Reynal m'écrit « La fiction autorise le fractionnement du discours. Ce sont les circonstances qui amènent sa reprise, donnent leur raison d'être aux interrogations qui s'expriment, aux considérations d'ordre général qui s'échangent. Et le récit communique à la méditation philosophique son allure plus légère. Les dialogues de la fiction, à l'intérieur du roman L'Accord, comme les dialogues des Lumières, sont d'un genre à la fois sérieux et agréable. L'accord est-il lisible comme une reprise ou une réponse contemporaine des entretiens sur la pluralité des mondes sous forme d'entretiens sur la complexité du monde un et unique? Comme le remarque Marmontel en tout cas, dans un dialogue philosophique, un des deux interlocuteurs peut et même doit être ignorant, mais doit l'être avec esprit. Qui est l'ignorant spirituel dans l'accord? Juliette au seuil du roman, qui est très vite éconduite, à la fin, Alicia. Par leurs interrogations, sans prérogative, leur curiosité, elles indiquent, par transitivité au lecteur, quelle disposition mentale doit être la sienne, celle d'un disciple prêt à s'élever dans la mesure où le roman relève, me semble-t-il, d'une ambition anagogique. Mais face aux initiatrices qui ont la maîtrise du jeu, qui posent les questions et y répondent souvent, Thierry est l'ignorant. L'effet pragmatique du dialogue réciproque est donc représenté dans le roman, convaincre l'autre d'une thèse, toujours sur le mode de la confirmation ou de la surenchère. Ainsi, par exemple, des effets sur Thierry de ses entretiens avec Irène ou sur elle de sa première contribution, j'ai absolument pas le temps de lire, je vous renvoie au texte. En tout cas, la fiction donc accrédite l'efficience du logos autant à l'attention du narrateur dans le roman, que du lecteur que nous sommes. Si, selon la structure globale, le fractionnement permet d'alléger la méditation ou de lui donner une allure plus légère, si concession ou correction atténue la force assertive des axiomes, si enfin les interrogations rhétoriques adoucissent l'autorité d'Irène, il n'en reste pas moins que les énoncés d'autorité sont nombreux, conjugué au présent de l'indicatif, qui est ce mode du réel, qui combine la présence de l'énonciation et qui donc répond à un usage énonciatif, mais cet usage énonciatif se conjugue avec la prégnance d'une thèse exposée par des dames impérieuses. Dès le premier dialogue, par exemple, Irène répond aux questions que vous ne manquez pas de vous poser, page 20, délimitant et prescrivant le champ de l'interrogation. Lors du deuxième, elle présuppose l'accord de Thierry sur la combinaison de la curiosité, aspiration moderne par excellence, et le sens du sacré, intuition plutôt prémoderne, je cite, « Je suppose que vous serez d'accord pour y joindre les deux autres, la fin du divers, c'est la curiosité, n'est-ce pas? Aussi ai-je apprécié que vous en soyez venu à évoquer la curiosité de l'un pour ce qui émane de lui. » De cette curiosité divine, la nôtre est parente. N'avez-vous pas, comme moi, l'intuition qu'il y a entre elles un lien caché? Au lieu d'une réponse, voire d'un débat, qui serait propre à la logique romanesque, le roman nous propose une très belle prose poétique, une longue évocation d'une jupe de taffetas blanc, qui vaut pour acceptation implicite du contrat de l'abbaye et de l'idée d'Irène, et laquelle impose courtoisement, lors du quatrième entretien, sa vision du sacré. Nous sommes d'accord pour dire, je crois, que le sentiment du sacré nous est donné lorsque la merveille et l'énigme se laissent ensemble percevoir. Vous ne pourrez passer sous silence qu'il n'y a pas d'objectivité du sacré. On tombe d'accord, donc, plutôt que, et pas simplement on est d'accord, on tombe d'accord sous la force et la foi d'une autorité énonciative prêtée au féminin, sans que le dialogue suive un véritable mouvement heuristique. Le rôle contraignant du présupposé éclate, les réponses sont prescrites par la forme rhétorique de la question, et même les échanges avec Marc, autre hôte de la demeure, donc alter ego de Thierry, qui sont plus pédagogiques, ignore la maïeutique parce que Marc y devient en fait le porte-parole des dames dont il résume les les idées, et la position énonciative est simplement déléguée. Quant à la troisième conversation avec Irène, dite ou qualifiée de conversation à bâton rompu, elle n'est pas ce qu'on pourrait imaginer d'une conversation à bâton rompu libre ou aléatoire, elle est en réalité téléologiquement orientée, ce qu'indique la faveur accordée aux interrogatives et à l'impératif. Ne devons-nous pas être dignes de cet univers qui a su nous créer ? Écoutez. Même s'il fractionne l'établissement de la thèse cosmophilique, ces discours dialogaux ne sont donc pas dialogiques, pas plus que ne le sont les discours en première personne, comme le texte écrit pour le tiroir de Thierry ou la lettre d'Alexandrin. Le didactisme, donc, menace-t-il le roman qui ignore l'ironie ou la polémicité? Trouve-t-on dans l'accord, j'en viens à mon troisième point, les traits qui, selon Suzanne Suleiman, caractérisent le roman à thèse dans son livre « Le roman à thèse ou l'autorité fictive ». Le désir de convaincre et de convertir, qui justifie la désignation d'itinéraire modèle, le travail de désambiguisation du sens, la pratique de la redondance. Aucune incertitude, aucune indétermination n'étreint les dames de l'abbaye. Comme l'exemple homme, le roman ignore la relativité, il propose des valeurs et une axiologie unifiée. L'abbaye est un lieu en effet non problématique qui accueille la signification transcendante et des valeurs absolues déjà exposées ailleurs et avant dans l'œuvre de Henri Raynal, de sorte que nous les y reconnaissons et nous les y retrouvons. Cependant, si l'on admet que le roman à thèse s'appuie sur un scénario désacralisé du scénario initiatique, évidemment l'accord ne peut s'identifier tout à fait au roman à thèse, puisque la resacralisation du monde est au contraire l'enjeu de l'histoire. Ici donc, resacralisation non pas sous le signe de la transgression ni de l'inversion, on n'est ni chez Bataille ni chez Genet, on l'a compris, mais sous le signe du plus, du surcroît, de la perception, de la vibration entre l'infini et le fini. C'est cette énigme qui brille dans l'objet ou la créature où paraît le sacré, page 68. Le journal de Thierry, transmué en roman d'âme et de conversion, doit donc susciter l'identification du lecteur au protagoniste que le lecteur est, je cite Suzanne Suleiman, est incité à suivre dans la bonne voie. Voie, ici, d'ordre spirituel, mystique, qui mène de l'inclination vers le féminin à la transformation essentielle de l'individu, rendu donc digne non seulement de résider à l'abbaye, mais surtout d'en célébrer d'une part les rites amoureux et liturgiques, et surtout d'en faire part au reste du monde. Cet apprentissage exemplaire est proposé en partage par le biais de la fiction en première personne, qui individualise un trajet et un projet de vie, tout en l'universalisant par la concentration, la décantation et la stylisation qui président à l'écriture du roman. C'est donc à relever la condition humaine en ce monde terrestre ou réhabiliter l'existence à la fois sensible et spirituelle que s'emploie la fiction. Emploi prosélytique, pourrait-on dire, puisque le narrateur et le lecteur à lui identifié se sentent les obligés du monde dont un nouveau sacre est accompli. Pour nous persuader de ce surcroît de présence accordé au monde, le rôle de la métaphore aussi est fondamental. La femme nuit, le corps étoffe, expose les avatars de créatures émanant d'une source unique et commune. Stylistiquement, dès le début du roman, la métaphore filée de la vague et de l'étrave commence une série d'anamorphoses. Là, je ne peux pas ne pas citer le texte. La nuit venait vers moi. La nuit. Tout près, elle qui est abîme se faisait connaître. Telle la vague qui se forme tout au sommet des épaisseurs indistinctes de l'océan, l'inconnu s'approchait de moi comme l'étrave adorable de l'impalpable. Mieux, sa figure de proue, le sans borne en elle daignait prendre corps ici. L'étoffe de sa robe, pourtant d'un noir intense, avait le sourire aux lèvres. Montée depuis les profondeurs, la lumière y affluait, comme pour vêtir par place au gré des mouvements, comme pour parer cette substance inspirée, voire s'y substituer. On entend donc une sorte de série d'anamorphoses, la métaphore filée, commencer par la métaphore filée. Ces figures emboîtées, qui disent une transsubstantiation, répondent à l'excès et à la démesure du mystère du monde et du ravissement de Thierry. Je cite, « Tout le mystère du monde avait afflué pour se faire concrètement présent, il convergeait dans une personne, l'abîme avait pris figure. » Mais quand l'abîme prend figure, qu'advient-il de la métaphore et avec elle du jeu qui existe encore dans la métaphore entre comparant et comparé ? Il est certain, dit Irène à Thierry, que ces images de nuit, d'étrave ou de vague ne sont pas de simples métaphores. Que voyez-vous, sinon ce qui se transforme en ce qu'il est déjà, mais échappe à la vue banale, limitée, timorée ? J'essaie en fait de vous exposer le plus clairement possible à la fois les raisons pour lesquelles l'accord m'intéresse et ma gêne technique à l'égard de l'accord, pour le dire dans les termes de Pascal Quignard. Et c'est précisément cette gêne qui est stimulante, bien sûr, et cette réserve qui est féconde. En effet, les traits que j'ai tenté formels et génériques que j'ai tenté de faire apparaître soulèvent un problème littéraire. Le paradoxe d'un roman que l'on pourrait peut-être appeler post-moderne, qualifié de post-moderne, qui use du dialogue philosophique, forme de la modernité et de la relativité, comme à contre-emploi, au profit d'une méditation métaphysique, des concepts d'entité unique, de source, au-delà de la vie et du divin, au-delà de l'univers, au risque d'une union extatique et mystique. Il ne s'agit absolument pas, évidemment, de juger de l'expérience qui est en cause, mais de la convenance du roman comme genre à ce type d'expérience. Autrement dit, il s'agit de confirmer que vous avez tout à fait raison de parler depuis hier matin de Henri Rénal comme poète, poète en prose et poète métaphysicien. Postmoderne, parce que évidemment, en faisant porter le soupçon sur le soupçon, Henri Rénal ne remonte pas en deçà de la modernité, mais est éliminée du roman la discordance ou le caractère que Goethe appelait démonique ou l'ironie, et que la question que je me pose aussi est ce que fait une simple métaphore, c'est-à-dire une figure de discours, sinon suggérer cette discordance dans l'accord et ce jeu entre des éléments qui sont irréductibles à l'un. Il me semble donc que l'accord relève d'un âge métaphysique de la littérature. C'est un roman de l'âge métaphysique. C'est à ce titre qu'il est intéressant. Je conclus. La narration de la conversion de Thierry à la cosmophilie, les fastes de la métaphore ne suffiraient pas à nous persuader de ce lien, de cette religio faite de ferveur et de dévotion dans la pensée et l'œuvre de Henri Rénal. Pour que le roman convertisse notre propre regard, il faut que la fantaisie du récit s'allie au sérieux du discours, ou en tout cas il faut tenter que la fantaisie du récit s'allie au sérieux du discours et aux puissances du logos. D'où le volume de la parole directe, la fréquence des présents de l'énonciation, mais souvent confondue avec des énoncés de vérité. D'une certaine façon, de l'écriture de fiction, Rénal fait un usage au nom de l'apostolat. L'art poétique de l'auteur, d'ailleurs, et sa finalité organisatrice se peuvent déduire de l'aspiration du personnage d'Alexandra, du personnage fondamental de l'accord, bibliothécaire donc, ordonner et organiser les aventures d'une existence vouée aux aléas et aux contingences, annuler épisodes et digressions, orienter le sens d'une expérience et l'adresser. Alexandra dit à Thierry, c'est pages 144 et 45, « Le monde est une exposition permanente, désordonnée, hétéroclite. Collectionner, c'est mettre fin à la distribution aléatoire dans l'étendue et la durée. Fini l'exposition en vrac dans le dehors où règne la péripétie, la circonstance est effacée. » La collection est œuvre métaphysique. comme la représentation, la mimesis, selon Aristote, qui elle-même fait l'économie de la digression et des épisodes et des circonstances, rassembler, collecter, selon Alexandrin, c'est accomplir une synthèse de l'hétérogène. L'érotisme du roman métaphysique déborde les amours de Thierry, mais il les comprend, et c'est en doute à ce titre aussi d'ailleurs que le roman a une vertu cathartique. L'érotisation de la connaissance aboutit à l'affirmation suprême du cosmos 1, qui échappe au chaos, d'un accord qui l'emporte sur la dislocation. La fiction ici offre donc un espace littéraire de négociation entre, je cite Henri Reynal, la vivante unité qui est le propre du récit et, par ailleurs, je parle, la sélection signifiante, la décision de la thèse. L'auteur dit « La mise en scène de la fiction permet de diriger un cercle de lumière sur une idée, une sensation. » Et cette sélection est d'autant plus nécessaire qu'elle répond au risque de la dispersion. Il ajoute « Dans la vie, nous sommes brinque-ballés dans la disparate. Ce que j'appelle les hauts moments sont suivis, voire interrompus, par le futile, le médiocre ou le fastidieux. Dans la fiction telle que je l'ai pratiquée, l'importunité n'entre pas. » L'accord vérifie le pouvoir et le savoir de l'art ou du verbe, selon Henri Reynal, tel qu'il les expose dans le texte qui s'intitule « Les conciliables ». Je le cite, « L'art, ou bien le verbe, a ce pouvoir d'ordonnancement, alors la diversité qu'il dispose de façon propice subit l'aimantation d'un pôle, majuscule, reconnaît, implicitement ou non, une présidence secrète, majuscule. En les actualisant, ce don et ce pouvoir, l'accord, le texte, l'accord, rompt avec la modernité du roman comme genre de la complexité, comme genre dialogique ou démonique, qui, selon Auerbach ou selon Bakhtin, rompait lui-même avec l'unité ou l'univocité et la simplicité de l'épopée. Or, c'est à l'épopée que compare que Alexandra compare le cosmos. Je cite le texte, c'est page 30. Elle explique à Thierry, dans ce qui est une métaphore, il est l'auteur ou le seul personnage de toutes les histoires qui se rejoignent ici, c'est l'entité unique dont le corps est le tout. En réalité, il n'y a qu'une seule histoire. Elle est faite d'une infinité d'épopées gigantesques, et de minuscules historiettes, enchevêtrées. Elles se poursuivent, composent le tissu du monde. Ce qui, je crois, donc, nous intéresse et nous interpelle dans l'accord, c'est la question du roman comme face affrontée à l'énigme, c'est-à-dire le problème littéraire posé par l'énigme au genre du roman. Merci.